Chapitre 2. Après avoir accompagné son ami jusqu'à la porte, Andrei Efimovitch se rassied à sa table et se remet à lire. Aucune rumeur ne trouble le silence du soir, le silence de la nuit. On dirait que le temps lui-même s'arrête auprès de Rurgine immobile et penché vers son livre, et plus rien ne semble exister que ce livre et cette lampe à l'abat-jour vert. Le visage rustique et grossier du médecin peu à peu s'illumine. Il sourit d'extase et de tendresse devant le mécanisme de la pensée humaine. Oh, pourquoi, mais pourquoi l'homme n'est-il pas immortel, songe-t-il? À quoi bon ces délicats centres nerveux, ces fines ramifications? À quoi bon la vue, la parole? À quoi bon la sensibilité, le génie même, si tout cela doit se confondre avec le sol et se refroidir avec l'écorce du globe et tourner avec la planète pendant mille et mille siècles autour du soleil? Pour se refroidir et tourner sans fin, c'est pas la peine d'arracher au non-être l'homme avec son esprit sublime, presque divin, et de le transformer ensuite, comme par une espèce d'ironie, en mode de terre. Les métamorphoses de la matière. L'âge qui se console avec ce misérable succès d'années de l'immortalité. Les processus involontaires qui se produisent dans la nature sont absolument au-dessous de la bêtise humaine, car même la bêtise implique toujours une conscience, une volonté quelconque, et dans ces processus, on ne distingue rien de pareil. Cependant, on le répète à l'esprit, « Calme-toi, car ton être, en pourrissant dans l'intérieur de la terre, donnera l'existence à d'autres organismes. C'est-à-dire, tu seras transformé en quelque chose qui est au-dessous de la bêtise humaine. » Seul un poltron, chez qui la peur de mourir l'emporte sur la dignité, peut se laisser bercer par l'idée qu'avec le temps, son corps va revivre dans une herbe, dans une pierre, dans un crapaud. Voir son immortalité personnelle dans les métamorphoses de la matière n'est pas moins singulier que de prédire un avenir brillant à un étui quand l'excellent violon qu'il renferme en sera brisé et ne sera plus bon à rien. Et chaque fois que la pendule sonne, Andrei Efimovitch se rejette sur le dossier de sa chaise et ferme les yeux pour méditer. Sous la pression des belles pages qu'il vient de lire, il embrasse d'un coup d'œil sa vie antérieure et sa vie actuelle. Dans le présent, il voit la même chose que dans le passé. Et pendant que ses pensées tournent avec la planète refroidie autour du soleil, Ragine sait très bien que là-bas, non loin de son propre logis, dans le grand bâtiment de l'hôpital, des hommes languissent en proie à la maladie et à l'infection. Il y en a peut-être à cette heure que les punaises empêchent de reposer, ou qui prennent les résipelles, ou qui gémissent parce que leur pansement est trop serré. Il est même probable qu'à cette heure, les malades jouent aux cartes avec les infirmières, en buvant de l'eau de vie. Dans le courant de l'année passée, il y a eu 12 000 hommes trompés. Tout le service repose, comme il y a 20 ans, sur des commérages, des pots de vin, sur le plus grossier charlatanisme. Et l'hôpital, aujourd'hui comme alors, est un établissement immoral et nuisible. Ragine sait que dans la salle numéro 6, derrière les grilles, Nikita bat les aliénés, que Moïse sort tous les jours et qu'il mendie. D'autre part, il n'ignore pas non plus qu'il est survenu, pendant les 25 dernières années, des changements incroyables dans la médecine. Lorsqu'il étudiait à la faculté, il lui semblait que cette science serait le sort de l'alchimie et de la métaphysique. Mais à présent, durant ces heures nocturnes qu'il passe à lire, la médecine le touche profondément, excite en lui une admiration voisine de l'extase. En effet, quel éclat inattendu, quelle révolution! Grâce à l'antisepsie, on pratique des opérations telles que le roi Pirogov les croyait impossibles, même in spe, en espoir. Le simple médecin de province hasard de la résection de l'articulation du genou. Sur un chiffre de 100 laparotomies, on signale une seule mort. Et quant à la gravelle, on la considère comme si peu importante que les revues médicales ne la mentionnent même plus. Depuis quelque temps, on obtient la guérison complète de la syphilis. Et la théorie de l'hérédité, l'hypnotisme, les découvertes capitales de Pasteur et de Koch, et l'hygiène, et la statistique, et notre médecine russe à nous. Rien que la psychiatrie, avec sa nouvelle classification des maladies mentales, avec ses nombreuses méthodes pour le diagnostic et le traitement. Mais en comparaison du bon vieux temps, c'est le paradis. On ne verse plus d'eau froide sur la tête des malheureux aliénés. On ne leur met plus la camisole de force. On les traite humainement, et s'il faut en croire les journaux, l'on est même venu à organiser des bals et des spectacles pour les distraire. Andrei Filmovitch sait parfaitement qu'à une époque où l'on professe des principes semblables, une abomination comme la salle numéro 6 n'est plus possible, sinon un trou situé à 200 verstes au moins d'une gare, où le maire et les conseillers municipaux sont des rustres, sachant à peine lire et signer leur nom, et vénèrent tout médecin comme un esculape qu'il faut croire aveuglément, quand bien même on le verrait couler du plomb fondu dans la bouche du malade. Il est certain qu'ailleurs, le public et la presse auraient depuis longtemps jeté bas et anéanti cette petite Bastille. Mais qu'est-ce que cela prouve ? Se demande Radiguine en ouvrant les yeux. Et quel en est le résultat ? L'antisepsie de Pasteur et Koch existe bien, mais au fond, les choses n'ont point changé. Les maladies ne sont pas moins nombreuses. La mortalité ne diminue pas. On organise des bals et des spectacles pour distraire les fous, mais on ne leur donne point la liberté. Tout cela n'est donc rien que non-sens et vanité. On trouve réellement aucune différence entre la meilleure clinique viennoise et mon hôpital. Toutefois, une tristesse profonde et un sentiment qui ressemble à de la jalousie l'empêchent de rester indifférent. C'est la fatigue, sans doute. Sa tête lourde se penche sur le volume. Il le pose entre les deux mains pour être mieux, et il pense. Moi-même, je contribue à une œuvre qui est nuisible, et je touche à un salaire de gens que je trompe. Je ne suis pas honnête. Mais je ne suis rien, moi, et ma personnalité n'a aucune importance, car je suis qu'une infime partie de ce grand mal social absolument indispensable. Tous les fonctionnaires sont des gens inutiles et qui volent plus ou moins leurs appointements. Donc, ce n'est pas ma faute si je suis malhonnête, mais celle de mon temps. Si j'étais né 2 siècles plus tôt, je serais un autre homme. Et quand 3 heures sonnent, Ragin éteint sa lampe et s'en va dans sa chambre à coucher. Il n'a point sommeil. Il y a 2 ans, le Zemstvo, dans un accès de générosité soudaine, se résolut enfin à sacrifier 300 roubles par an afin d'augmenter le personnel de l'hôpital. Pour aider un peu Andrei Efimovitch, les autorités firent venir un médecin des environs, Khobolov. Khobolov est encore jeune, 30 ans à peine, grand et brun, les pommettes saillantes, les yeux tout petits. Ses aïeux furent sans doute des aborigènes mogols. Il arriva pauvre comme Job, muni d'une valise pour tout bagage, et accompagné d'une femme passablement laide, qu'il appelait sa cuisinière. Cette femme avait un enfant à la mamelle. Monsieur Khobotov porte une casquette, des bottes, et en hiver, la demi-pelisse du paysan. Il n'a pas tardé à se lier avec l'aide-chirurgien Sergueï Sergueïevitch et avec l'économe. Quant aux autres fonctionnaires, il les qualifie d'aristocrates et les évite soigneusement. On ne trouve chez lui qu'un seul livre, « Les nouvelles ordonnances de la clinique viennoise pour 1881 ». Quand il se rend auprès d'un malade, il ne manque jamais d'emporter ce livre. Le soir, au cercle, il joue au billard, mais il n'aime pas les cartes. Volontiers, il emploie dans la conversation des termes empruntés à l'argot, des potaches, comme « quelle blague, quelle si, qu'est-ce que tu me chantes là ?» etc. Il vient à l'hôpital, régulièrement, deux fois par semaine, et alors il visite chaque salle et se charge de la consultation. Le manque absolu d'antiseptiques et le continuel emploi des ventouses l'indignent fort, mais il n'ordonne rien de nouveau, car il a peur de froisser Andrei Efimovitch, et il voit alors son collègue, un vieux fripon, qui soupçonne d'avoir amassé une fortune et qu'il envie secrètement. Il serait bien heureux d'occuper sa place. Par une soirée de printemps, à la fin de mars, alors qu'il n'y avait plus de neige sur la terre et quand le jardin de l'hôpital chantait les étourneaux, Ragine sortit pour accompagner son ami le directeur de la poste. Justement, le juif Moïse rentrait dans la cour après sa journée de travail. Il était nu-tête, avec de méchantes galoches à ses pieds nus, et tenait à la main un petit sac plein de croutons et de restes qu'il avait reçus. « Donne-moi un copec !» dit-il au docteur en tremblant de froid et en souriant. Andrei Efimovitch, qui ne savait jamais refuser quoi que ce fût, lui donna une pièce de 10 copecs. « Comme c'est malsain !» pensait-il en regardant les jambes nues de Moïse, au mollet rouge et maigre. « Il fait si humide !» Et poussé par un sentiment où la pitié se mêlait au dégoût, il suivit le juif en promenant son regard du crâne chauve aux chevilles nues. À l'entrée de Ragine dans l'antichambre, le gardien quitta vivement son tas de chiffons et vint saluer le médecin. « Bonsoir, Nikita, lui dit avec douceur Andrei Efimovitch. Est-ce qu'on ne pourrait pas donner à ce juif une paire de chaussures ? Il va prendre certainement froid sans cela. » « Oui, votre haute noblesse, je le dirai à l'économe. »« Oui, je t'en prie, demande-lui cela de ma part. Dis que c'est moi qui t'en prie. » La porte de la salle était ouverte par hasard. Couché dans son lit et relevé sur le coude, Gromov écoutait avec inquiétude cette voix étrangère. Tout à coup, il reconnut le docteur, et dans un accès de rage, il sauta hors de sa couchette. Le visage rouge, méchant, les yeux à fleur de tête, il bondit vers le milieu de la salle. « Voici le médecin qui arrive !» s'écria-t-il en riant aux éclats. « Enfin, messieurs, je vous félicite. Le docteur veut bien nous honorer de sa présence. Ah, la sale bête ! » hurla-t-il encore en frappant du pied, avec une fureur que les pensionnaires ne lui avaient jamais vue encore. « Tuer cette sale bête, non, tuer ce n'est rien, la noyer dans une fosse d'aisance. » Andrei Efimovitch entendit ces paroles. Il montra sa tête à l'embrasure de la porte et d'une voix douce il demanda « Et pour quelle raison ?»« Pour quelle raison ?» demanda Gromov en marchant vers lui avec une mine tragique et s'enveloppant dans la blouse d'un geste convulsif. « Pour quelle raison ? Voleur ! » s'écria-t-il, avec un dégoût visible, et en avançant les deux lèvres comme pour cracher. « Bourreau ! Charlatan ! » !»« Calmez-vous !» lui dit Ragine en souriant d'un air coupable. « Je n'ai rien volé, je vous assure. Et quant au reste, croyez-moi, vous exagérez beaucoup. Je vois que vous m'en voulez. Calmez-vous, je vous en prie. » Et tâchez de me dire tranquillement pour quelle raison. Et pour quelle raison vous me retenez-vous ici ? Et parce que vous êtes malade. Oui, je suis malade. Mais il y a des centaines de fous qui se promènent en liberté uniquement parce que votre ignorance est impuissante à les distinguer de ceux qui ont l'esprit sain. Et pourquoi donc ces malheureux et moi devons-nous demeurer enfermés à la place des autres comme de vrais boucs émissaires ? Mais vous et votre aide, et l'économe, et toute cette canaille de l'hôpital, Vous avez tous une moralité incomparablement inférieure à la nôtre. Et pourquoi donc est-ce nous qui restons ici et non pas vous? Est-ce logique? Mais il ne s'agit pas de logique ni de moralité. Tout dépend du hasard. Quiconque est mis dedans y reste, qui a la chance d'éviter l'internement se promène, voilà tout. Le fait que je suis le médecin et vous le malade ne comporte ni moralité ni logique. Ce n'est qu'un simple hasard. « Mais on ne comprend rien à des inepties pareilles, » répondit Glomov d'une voix sourde, en se rasseyant sur le lit. Pendant ce temps-là, Moïse, que le gardien n'avait pas osé dépouiller en présence du médecin, étalait sur sa couchette les croutons de pain, les bouts de papier, les os qu'il avait tirés de son sac. Puis encore, tout frissonnant de froid, il se mit à prononcer quelques paroles en hébreu, d'une voix traînante. Il s'imaginait sans doute avoir établi une boutique. « Mettez-moi en liberté !» dit Glomov, et sa voix tremblait. « Mais je ne puis !»« Mais pourquoi donc? Pourquoi ?»« Mais parce que cela passe mon pouvoir. Jugez plutôt vous-même. À quoi vous servirait-il que je vous rendisse votre liberté ?» Soit allez, mais vous serez immédiatement arrêté par les habitants ou par les agents de police et ramené ici. Ben oui, c'est vrai, dit Glomov en se passant la main sur le front. C'est terrible. Mais alors, que pourrais-je bien faire? Quoi? La voix de Glomov, sa figure intelligente et juvénile encore, avec ses grimaces bizarres, plurent beaucoup au docteur. L'envie de prier de lui adresser quelques bonnes paroles et de le calmer. Il s'assit au bord du lit, et après un moment de réflexion, il dit au jeune homme « Vous me demandez conseil. Eh bien, dans votre situation, le mieux serait de vous sauver. Par malheur, la fuite serait inutile. On vous reprendrait sûrement. Dans sa défense contre les criminels, contre les aliénés, contre ceux de ses membres, qu'elle trouve gênants, la société reste invincible. Vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est de vous accoutumer à l'idée que votre séjour ici est indispensable. Mais cela ne sert de rien à personne. Et du moment qu'il y a des prisons et des asiles, il faut bien qu'on y mette quelqu'un. Si ce n'est vous, c'est moi. Si ce n'est moi, c'est un autre. Prenez patience. Dans un avenir éloigné, lorsqu'asiles et prisons n'existeront plus, il n'y aura plus ni gris ni blouse bleue. Certes, ce temps arrivera un jour ou l'autre. Glomov eut un sourire d'ironie. Vous raillez, fit-il en clignant des yeux. Les êtres comme vous et comme votre digne aide Nikita s'inquiètent peu de l'avenir. Cependant, vous pouvez être assuré, monsieur, qu'un temps meilleur arrivera. Vous allez trouver banal ce que je dis, mais il viendra un moment où l'aurore d'une vie nouvelle poindra, où la vérité sera triomphante, où vous-même devrez moudre un peu à votre moulin. Mais je n'y serai plus alors, j'aurai crevé avant. Mais nos arrière-petits-fils verront cela. Je les salue de tout mon cœur et je suis très heureux d'avance pour ces forces à libérer. Dieu vous aide, mes amis. Glomov se leva, et les yeux brillants, les mains tendues vers la croisée, il reprit d'une voix émue. « De derrière ces grilles, je vous envoie ma bénédiction. Vive l'équité, je suis heureux. » « Je ne vois aucune raison de se réjouir, » dit Ragin, qui trouva le mouvement de Glomov un peu théâtral, mais non dépourvu de quelque beauté. « Il n'y aura plus de prison ni d'asile pour les fous. » Et la vérité sera triomphante, comme vous avez bien voulu le dire, soit. Mais au fond, les choses ne changeront point, et les lois de la nature demeureront les mêmes. Les hommes seront malades, ils vieilliront, ils mourront comme à présent. Et si magnifique soit leur ordre, s'illuminera leur existence, ils n'en finiront pas moins par être mis dans une bière et jetés pour jamais dans une fosse. De l'immortalité, allons donc. Vous n'y croyez pas? Eh bien, j'y crois, moi. L'un des héros de Dostoïevski ou de Voltaire, je ne me rappelle plus au juste, assure que si Dieu n'existait pas, les hommes l'auraient inventé. Eh bien, je suis intimement convaincu, moi, que si l'immortalité n'existe pas, l'esprit humain, dans sa puissance, finira par l'inventer. Voilà qui est bien dit Andrei Tchaïnovitch, tout joyeux. Mais c'est excellent de croire aussi. Avec une foi pareille, on peut très bien vivre, même enfermé entre quatre murs. Est-ce que vous avez fait vos humanités? Oui, je suis jadis étudiant, mais je n'ai pas achevé mes études. Mais vous êtes un homme intelligent, un esprit méditatif. Quel que soit votre entourage, vous trouverez toujours en vous-même le moyen de vous apaiser. La pensée profonde et libre qui s'efforce de comprendre le sens de la vie et le mépris des vanités humaines, voilà certes les plus grands biens que l'homme ait jamais connus. Et vous pouvez parfaitement les posséder, eussiez vous-même trois grilles à vos fenêtres. Diogène vivait dans un tonneau, il était cependant plus heureux que tous les rois de la terre. Votre Diogène, monsieur, n'était qu'un imbécile, dit Gromov. Pourquoi m'ennuyer avec votre Diogène et votre sens de la vie? S'écria-t-il soudain en bondissant et en se fâchant tout rouge. C'est que j'aime la vie, moi. Je l'aime passionnément. J'ai une manie, la manie de la persécution. Un peu folle, une peur folle me tourmente continuellement. Oui, mais il y a des heures où la soif de la vie me prend. Et alors, je crains de perdre la raison. J'ai un désir furieux de vivre, je le veux à tout prix, je le veux. Très ému, il fit quelques pas dans la salle, puis il poursuivit à voix basse. Quand je m'abandonne à mes rêves, j'ai souvent des visions. Des êtres m'apparaissent, j'entends une musique, des voix. Il me semble que je me promène à travers des forêts, au bord de la mer. Et alors un désir fou de bruit, de mouvement s'empare de moi. Dites-moi donc un peu, quoi de nouveau là-bas? Demanda-t-il brusquement. Que se passe-t-il? Vous désirez savoir ce qui se passe dans la ville ou dans le monde en général? Eh bien oui, parlez-moi de la ville d'abord et puis du monde en général. Que vous dirais-je? Il règne dans la ville un ennui languissant. Personne à qui adresser la parole, personne qui vaille d'être écouté. Pas de nouveaux personnages. Si dernièrement un jeune médecin, Robotov, est arrivé chez nous. Bon, mais je l'ai bien vu, un goujat, quoi. Oui, c'est un homme peu civilisé. Mais c'est bizarre, savez-vous. Il paraît cependant qu'on ne s'endort pas dans nos capitales. Il y a du mouvement, il doit s'y trouver des hommes vraiment intéressants. Oh, je ne sais pourquoi, on nous envoie toujours des particuliers, tels que cela fait mal au cœur de les regarder. Oh, la malheureuse ville! Oui, la malheureuse ville, répéta Gromov, qui soupira, puis se mit à rire. Et quoi de nouveau en général? Qu'est-ce qu'on écrit dans les journaux et les revues? Il faisait déjà sombre dans la salle. Ragine se leva et, debout, raconta ce qui s'écrivait en Russie et à l'étranger, quelle direction la pensée humaine avait suivie en ces derniers temps. Gromov écoutait fort attentivement et posait des questions. Mais soudain, comme s'il venait de se rappeler quelque chose de terrible, il se prit la tête à pleines mains, se rejeta sur la couchette, et resta sans bouger en tournant le dos au docteur. Et que vous arrive-t-il? Interrogea Ragine. Vous ne tirerez plus une seule parole de moi, dit Gromov d'une voix brusque. Laissez-moi. Mais pourquoi donc? Mais quand je vous dis de me laisser, que diable! Andrei Ifimovitch haussa les épaules, poussa un soupir et sortit. En traversant le vestibule, il appela le gardien. Dis-moi, Nikita, si l'on pouvait mettre un peu d'ordre ici, on étouffe. Oui, votre haute noblesse. Quel homme agréable, pensait Ragine en rentrant chez lui. Depuis que j'habite la ville, c'est le premier, je crois, avec lequel on puisse causer. Il raisonne bien, certes, et il s'occupe justement de ce qu'il faut. Pendant qu'il lisait, et puis en se couchant, il ne cessa de songer à Gromov. Et le lendemain, en ouvrant les yeux, il se rappela que la veille, il avait lié connaissance avec un homme intelligent et intéressant. Il résolut d'aller bientôt causer avec lui encore une fois. Gromov était sur son lit, la tête entre les mains et les jambes croisées de la turque. On ne voyait pas sa figure. « Bonjour, mon ami, lui dit Ragin, vous ne dormez pas ?»« Primo, je suis pas votre ami, répondit Gromov dans son oreiller. « Secondo, vous avez bien tort de vous mettre ainsi en frais. Vous n'arriverez pas à m'arracher une seule parole. »« C'est bizarre, balbutia le docteur, assez déconcerté. Hier, cependant, nous avons causé ensemble, si paisiblement. Et tout à coup, je ne sais quoi, vous a froissé. Vous avez coupé net l'entretien. Il se peut que j'aie prononcé un mot malheureux ou formulé une pensée en désaccord avec vos convictions. » « Certes, il faudrait que je fusse bien stupide pour vous croire, » dit Gromov, qui se releva un peu et jeta sur le médecin un regard moitié railleur, moitié inquiet. Ses yeux étaient rouges. « Allez donc espionner et questionner ailleurs. Vous n'avez rien à faire ici. J'avais déjà compris hier pourquoi vous étiez venu. » « Quelle singulière idée, » dit le docteur en souriant. « Alors, vous supposez que je suis un mouchard ?»« Oui, je le suppose, un mouchard ou un médecin qu'on a changé de santé, c'est tout comme. »« Non, mais vous êtes passablement original, permettez-moi de vous le dire. » Le docteur s'assit près de lui sur un petit banc et secoua la tête avec une expression de reproche. « Écoutez, admettons que vous ayez raison, reprit-il. Admettons que je sois venu ici pour abuser de votre confiance et vous livrer à la police. Vous voilà donc arrêté, puis jugé. Mais pendant le jugement et à la prison, serez-vous plus malheureux qu'ici? Et si vous êtes condamné à la Sibérie ou aux travaux forcés, dites-moi, sera-ce pire que votre existence dans cette maison ? Qu'auriez-vous donc à redouter, voyons ? » Ces paroles semblèrent produire un certain effet sur Gromov. Il s'assit, un peu calmé. Il était 5 heures du soir à peu près, l'heure où Ragin avait coutume de se promener dans son appartement et où Daryushka lui demandait s'il n'allait pas encore boire sa bière. Le temps était clair et doux. « Mais j'ai voulu sortir un peu après le dîner, » dit le docteur. « Et en passant, je suis venu vous dire bonjour, comme vous voyez. On est en plein printemps. »« Et quel mois sommes-nous, en mars ?» demanda Gromov. « Oui, à la fin de mars. »« Il y a de la boue ?»« Non, pas trop. Les sentiers reparaissent déjà dans le jardin. » « Ben, il serait agréable maintenant de faire une petite promenade en voiture, quelque part un peu loin de la ville, » dit Gromov en se frottant les yeux comme après avoir dormi. « Puis de rentrer chez soi, dans un confortable cabinet de travail, et de consulter un bon médecin sur mes névralgies. Voilà longtemps déjà que je n'ai pas vécu, moi, comme un homme. C'est une vilaine existence qu'on mène ici, insupportablement vilaine. » Il semblait fatigué après la surexcitation de la veille. Il manquait d'entrain et parlait à contre-cœur. Mais il n'y a nulle différence entre un bon cabinet de travail bien chaud et cette salle, dit le docteur. La paix et le bonheur de l'homme ne sont pas hors de lui, mais en lui. Comment cela ? Seul un homme ordinaire attend le bien ou le mal de l'extérieur, c'est-à-dire de sa voiture ou de son logis. Un homme qui pense trouve le bonheur en lui-même. Allez prêcher cette philosophie en Grèce, où il fait chaud et où les oranges embaument l'air. Elle est point simple à chez nous. Qui donc m'a parlé du vieux Diogène ? Ah, c'est vous, je crois. Oui, nous vous en avons parlé hier. Diogène, lui, il n'avait pas besoin d'un cabinet, d'un appartement bien chauffé. Il avait assez chaud comme cela. Il n'avait qu'à demeurer couché dans son tonneau et à manger des oranges et des olives. Mais s'il avait dû vivre dans notre pays russe, oh, je vous assure qu'en décembre, et parfois même au beau milieu de mai, il n'eût pas été fâché de se réfugier dans une maison. Il aurait joliment gelé. Non, il en est du froid comme de la souffrance. On peut ne pas le sentir. Marc Aurèle a dit, la douleur n'est que l'imagination vive d'une douleur. Fais un effort. Tourne ailleurs ton esprit, cesse de gémir et la douleur disparaîtra. Cela est juste. Un sage ou simplement un homme qui pense et qui raisonne se distingue précisément par son mépris de la souffrance. Il est toujours content, rien ne l'étonne. Alors je suis un idiot, car je souffre, moi, je suis mécontent et je m'étonne de l'humaine lâcheté. Mais vous avez tort. À force de réfléchir, vous finirez par concevoir le néant de ce qui vous est extérieur, de ce qui vous affecte. Il faut aspirer à la connaissance de la vie. Là, seulement là, réside le vrai bonheur. La connaissance, répéta Gromov en se renfrognant. Extérieur, intérieur. Je vous demande pardon, mais je comprends pas cela. Ce que je sais, reprit-il en se levant et lançant à Ragine un coup d'œil féroce. C'est que le bon Dieu m'a fait du sang chaud et des nerfs, oui, monsieur. Et tous les tissus organiques vivants réagissent à la plus petite excitation extérieure. Et je réagis, moi. Je réponds à une double, l'heure par des cris et des larmes, à une vilenie par l'indignation, et à toute lâcheté par le dégoût. Et c'est justement cela qui s'appelle pour moi la vie. Plus l'organisme est simple, moins il est sensible et moins fort il réagit. Plus il devient complexe, plus il est susceptible aussi, plus énergiquement il réagit. Comment ignorer cela? Singulier docteur qui ne sait pas des choses tellement élémentaires. Pour mépriser la souffrance, être à jamais content, ne s'étonner de rien. Il faut que l'on soit arrivé à un pareil état. Gromov désigna le gros paysan chargé de graisse. Ou bien que l'on soit endurci par la souffrance au point de ne plus rien sentir, c'est-à-dire que l'on ait cessé de vivre. Pardonnez-moi, oh, je ne suis point un sage ni un philosophe, continua-t-il en colère. Je n'entends goût dans vos discours. Je ne suis pas capable de raisonner, moi. Mais au contraire, vous raisonnez très bien. Les stoïciens que vous me semblez parodier, les stoïciens furent des hommes remarquables. Mais leur doctrine s'est arrêtée il y a 20 siècles. Depuis, elle n'a point avancé d'un seul pas, elle n'avancera plus jamais, car elle n'est aucunement pratique et n'a rien de commun avec la vie. Elle n'a pu séduire qu'un petit nombre de gens dont l'existence entière se passe à étudier, à disséquer les plus diverses théories. La plupart des hommes ne l'ont point comprise. Une théorie qui prêche l'indifférence à la douleur et à la mort est absolument inintelligible à la masse, puisque la masse n'a jamais connu la richesse ni le confort. Et mépriser la douleur signifie pour elle mépriser la vie elle-même. Car ce qui, au fond, constitue l'existence humaine, c'est la sensation de la faim, du froid, c'est la rancune, le regret, la peur de la mort, cette peur qui torturait Hamlet. C'est là toute la vie. On peut la trouver pénible, on peut même la haïr, mais il est impossible de la mépriser. Donc, je le répète, la doctrine stoïcienne est sans nul avenir. Par contre, ce qui dure et se développe, comme vous le voyez depuis le commencement des siècles jusqu'à nos jours, c'est l'impro-lutte, le pouvoir de sentir la douleur, de réagir à toute excitation. Nigromov perdit subitement le fil de ses pensées. Il s'arrêta, se frotta le front d'un air contrarié. Ben, vous voulez ajouter quelque chose de très important, reprit-il, mais je me suis embrouillé. De quoi donc est-ce que je parlais? Ah oui, je voulais dire que l'un des stoïciens se vit esclave afin de racheter un de ses proches. Vous voyez donc que lui-même réagissait, car un fait aussi généreux que d'anéantir sa personnalité pour autrui suppose une âme qui souffre et se révolte. Bien ici, en prison, j'ai oublié tout ce que j'avais appris. Autrement, je me rappellerai encore d'autres exemples. Et si nous prenons le Christ lui-même, il réagissait par des pleurs, des sourires, des peines, des colères. Il éprouvait même de l'angoisse parfois. Ce n'est pas en souriant qu'il affrontait la souffrance. Il ne méprisait point la mort, lui, qui dans sa prière au jardin des Oliviers murmurait « Seigneur, éloignez de moi ce calice !» Gromov se mit à rire et se rassit. Supposons qu'en effet la paix, le bonheur de l'homme ne soient pas hors de lui, mais en lui, poursuivit-il. Admettons qu'il faille braver la douleur et ne s'étonner de rien. Mais vous-même, quelle raison auriez-vous de prêcher tout cela? Êtes-vous un sage, un philosophe? Non, je ne suis pas un philosophe, mais c'est là, suivant moi, des idées que chacun doit prôner, parce qu'elles sont justes. Non, je voudrais bien savoir de quel droit vous tranchez ces questions. Le mépris de la douleur, le vrai sens de la vie et d'autres encore. Est-ce que par hasard vous auriez souffert? Oh, vous en auriez donc une idée, vous, de la souffrance. Dites-moi, est-ce que dans votre enfance vous étiez souvent battu? Non, mes parents détestaient les punitions corporelles. Moi, j'étais souvent fouetté jusqu'au sang par mon père. C'était, monsieur, un rude factionnaire, tourmenté par les hémorroïdes, sec, au nez long, au cou jaune. Mais parlons de vous. Personne jamais ne vous a touché du doigt? Personne ne vous terrorisa? Vous resplendissez de santé. Vous avez grandi sous les caresses de votre père, et c'est à ses frais que vous avez accompli vos études. Vous avez eu du premier coup la chance d'obtenir une sinécure. Voilà plus de 20 ans que vous habitez un appartement gratuit. Plus de 20 ans que bien servi, éclairé, chauffé, vous avez le droit de travailler autant que vous le voulez, et même de ne rien faire. De votre nature, vous êtes un homme insolent et doux, et c'est pourquoi vous avez toujours arrangé votre vie de manière que rien ne vous émeuve, que rien ne vous trouble. Vos affaires, vous en avez laissé le poids à votre aide et à toute cette canaille, tandis que vous-même restiez bien tranquille dans votre chambre confortable, à ramasser de l'argent, à lire, à méditer sur une foule d'absurdités élevées et à... Gromov jeta un coup d'œil sur les nez rouges du médecin. Et à boire! Bref, vous n'avez jamais vu la vie et ne savez rien d'elle. Vous ne connaissez la réalité qu'en théorie. Et si vous méprisez la douleur, et si rien ne vous étonne, la raison est fort simple. C'est que la vanité des vanités, l'extérieur, l'intérieur, le mépris de la vie, de la souffrance et de la mort, le vrai bonheur, tout cela constitue une philosophie très commode pour un citoyen russe, paresseux comme vous l'êtes. Voyez-vous, par exemple, un paysan battre sa femme? À quoi bon intervenir? Car qu'il frappe à son aise, puisque tous deux finiront par mourir un jour ou l'autre. D'ailleurs, ses coups avilissent plutôt celui qui les donne, et pas celle qui les reçoit. Certes, il est sot et indécent de se griser, mais puisqu'il faut mourir, autant vaut boire que de s'en priver. Voilà une bonne femme qui a mal aux dents. Eh bien quoi? La douleur n'est que l'imagination d'une douleur, et puis il est impossible de vivre en ce monde sans pâtir. Nous mourrons tous par conséquent, bonne femme, Êtes-vous de là? N'empêchez point de boire mon seau de vie. Un jeune homme arrive pour vous demander conseil. Que faire? Comment vivre? Avant de répondre à cette question, un autre homme y réfléchirait, mais vous avez une réponse toute prête. Aspirez à comprendre le sens de la vie, à conquérir le vrai bonheur. Mais qu'est-ce que ce vrai bonheur? Ah, cela naturellement point de réponse. On vous tient bien enfermé derrière ces grilles. On vous laisse pourrir dans la saleté. On vous accable de coups. Mais tout cela est bien, puisqu'il n'existe aucune différence entre cette salle et un confortable cabinet de travail. C'est là une philosophie très commode. Rien à faire, la conscience tranquille et on se croit un vrai sage. Non, monsieur, non. Ce n'est point de la philosophie, cela. Ce n'est plus une manière de penser ni une libre conviction. C'est tout simplement de la paresse. C'est la vie d'un fakir, une démence continue. Oui, s'écria Gromov en s'emportant. Vous méprisez la douleur. Et cependant, rien que pour vous avoir le doigt pris dans une porte, je suis bien sûr que vous chercheriez, crieriez comme un possédé. Mais peut-être ne crierai-je point, dit Ragin en souriant avec douceur. Ah oh, oui, je dois vous croire sur parole. Que seulement une attaque de paralysie vous eût frappé, ou qu'un imbécile plein de morgue, abusant de sa position et de son rang, vous eût impunément offensé en public, oh alors, vous ne parliez peut-être plus du bonheur intérieur et du vrai sens de la vie. Voilà qu'il est original, dit le docteur en riant et en se frottant les mains de plaisir. Ce que j'aime surtout en vous, c'est la faculté que vous avez de généraliser les choses. Et quant à la silhouette que vous avez bien voulu tracer tout à l'heure de ma personne, c'était tout simplement remarquable. J'avoue que j'éprouve une grande satisfaction à causer avec vous. Eh bien, puisque je vous ai attentivement écouté, veuillez donc m'écouter à votre tour. Cette conversation, qui dura une heure encore à peu près, sembla produire sur le docteur une impression profonde. Il se mit à fréquenter le pavillon des aliénés. Il y venait le matin, puis dans l'après-dînée. Parfois, à la tombée de la nuit, il la surprenait causant avec Gromov. Au commencement, Gromov se montrait quelque peu farouche. Il soupçonnait Ragin de mauvaises intentions et ne se gênait guère pour exprimer son hostilité. Puis il finit par s'habituer à la présence du médecin et sa brusquerie fit place à une ironique indulgence. Bientôt, le bruit courut dans l'hôpital que le docteur Andrei Efimovitch visitait maintenant la salle numéro 6. Ni l'aide chirurgien, ni les infirmières, ni le gardien Nikita ne pouvaient comprendre pourquoi il y venait, demeurait des heures entières, ce qu'il disait et pour quelle raison il n'écrivait jamais une seule ordonnance. En général, sa façon d'agir semblait au moins étrange. Le directeur de la poste le trouvait souvent sorti, ce qui n'arrivait jamais auparavant. Mais Daryushka elle-même ne revenait pas, car le docteur ne prêtait plus sa bière à l'heure habituelle, et il se mettait même en retard pour le dîner. Un soir, vers la fin de juin, le docteur Khobotov eut besoin de voir Andrei Evidovitch pour une affaire. Ne l'ayant point rencontré, il s'en fut le chercher dans la cour de l'hôpital. Il apprit là que le vieux médecin visitait la salle des aliénés. Khobotov entra dans le pavillon, s'arrêta dans le vestibule, et voici quelle conversation vint frapper son oreille. « Jamais nous ne serons d'accord, jamais vous ne réussirez à me convaincre, » disait Gromov avec impatience. Vous ne connaissez rien absolument de la réalité. Vous n'avez jamais souffert. Vous n'avez fait que vous nourrir comme une sangsue avec la substance des autres. Moi, j'ai souffert depuis le jour où je vins au monde jusqu'à ce moment, sans relâche. C'est pourquoi je vous le dis haut, tout net, je me crois supérieur à vous en toutes choses. Non, non, c'est pas à vous de m'instruire. Je n'ai pas la prétention de vous convaincre, dit Andrei Efimovitch à voix basse et comme en regrettant que l'on ne voulût pas le comprendre. Mais ce n'est point de cela qu'il s'agit, mon ami. Que vous ayez souffert et moi, non, ça n'a pas la moindre importance. Les douleurs comme les joies sont éphémères. Laissons-les, c'est pas la peine d'en parler. Ce qui est l'essentiel, c'est que nous pensons tous les deux et nous regardons l'un l'autre comme des gens capables de raisonner. Cela même nous rend déjà solidaires, tout différents que soient nos principes. Si vous saviez seulement comme j'en ai assez de l'extravagance, de la sottise, de la médiocrité qui règne partout, et quel plaisir j'éprouve à causer avec vous, mon ami. Vous êtes un homme intelligent, et je suis heureux de vous avoir. Rabotov entr'ouvrit la porte et jeta un regard dans l'intérieur de la salle. Gorbov, en bonnet d'uniforme, et le docteur se trouvaient assis côte à côte sur la couchette. Le fou, secoué de frissons, tiraillait sa blouse d'un geste convulsif et ne cessait de grimacer. Le docteur, lui, demeurait immobile, la tête baissée, le visage rouge, l'air triste et malheureux. Robotov haussa les épaules, sourit, échangea un coup d'œil rapide avec Nikita, qui haussa les épaules à son tour. Le lendemain, le docteur Robotov reparut en compagnie de l'aide-chirurgien. Tous les deux restèrent dans le vestibule à écouter. Il paraît que notre ancien est tout à fait détraqué, dit Robotov quand ils quittèrent le pavillon. Seigneur mon Dieu, ayez pitié de nous, murmura Sergueï Sergueïevitch en poussant un soupir et en évitant les petites flaques afin de ne pas salir ses bottines bien cirées. À vrai dire, mon cher docteur, bon, je m'y attendais, et depuis longtemps. De ce jour, Andrei Efimovitch s'aperçut qu'il se passait autour de lui quelque chose de mystérieux. Les infirmiers, les infirmières, les malades eux-mêmes, quand ils croisaient le docteur, l'observaient curieusement et se mettaient soudain à chuchoter. La petite Marie, la fille de l'économe, que Ragine aimait à rencontrer dans le jardin, s'enfuyait maintenant chaque fois qu'il s'approchait d'elle pour lui caresser les cheveux. Le directeur de la poste ne disait plus en l'écoutant: C'est parfaitement juste, mais il balbutiait avec un embarras inexplicable. Oui, et attachait sur lui un regard triste et pensif. Au surplus, il conseillait souvent à Ragine de renoncer à boire de la bière et de l'eau-de-vie. En homme délicat, il ne disait point cela crûment. Il se bornait à insinuer par toute espèce d'illusion, tantôt lui nommant un officier de ses amis, tantôt quelques prêtres, qui tous les deux étaient devenus malades à force de boire et que l'abstinence avait radicalement guéri. Deux ou trois fois, le docteur Robotov était venu visiter son collègue. Lui aussi menait Ragine en garde contre l'abus des spiritueux. Et un jour, il lui recommanda, sans aucune raison apparente, le bromure de potassium. Au mois d'août, Ragine reçut une lettre du maire qui le mandait pour une affaire très urgente. Arrivé à l'hôtel de ville, Andrei Efimovitch s'y trouva réuni le chef de la garnison, l'inspecteur des écoles, un des conseillers municipaux, le docteur Robotov et encore un monsieur blond et fort, qu'on lui présenta comme docteur lui aussi, ce docteur dont le nom d'origine polonaise était fort difficile à prononcer et qui habitait une maison de campagne à 30 verstes d'environ de la ville était là qu'en passant. Nous avons à traiter une petite affaire qui vous concerne, dit le conseiller municipal à Ragine lorsque tout le monde se fut assis. Le docteur Robotov affirme que la pharmacie est trop à l'étroit dans le corps de l'hôpital et qu'il faudrait la transférer dans une des ailes. Certes, cela pourrait se faire, mais il y a une difficulté grave. c'est que l'aile a besoin de réparation. Oui, et des réparations s'imposeraient en effet, répondit Andrei Efimovitch après avoir réfléchi. Si, par exemple, on voulait aménager l'aile du coin pour y transporter la pharmacie, les frais s'élèveraient à 500 roubles au moins. Ce serait là une dépense absolument improductive. Pendant quelques minutes, le silence régna dans la pièce. « Mais j'ai eu déjà l'honneur de vous exposer il y a 10 ans, continua Regine à voix basse, que cet hôpital, comme il est maintenant, est un établissement dont l'entretien excède les ressources de la ville. Notre ville gaspille trop d'argent à édifier des constructions inutiles et à payer des fonctionnaires dont on n'a pas besoin. J'estime qu'avec les mêmes sommes, autrement employées, il serait possible de bien entretenir 2 hôpitaux modèles. » « Eh bien, qui nous en empêche ?» demanda le conseiller municipal en s'animant. Ben, « Je vous ai déjà dit alors de laisser à l'administration tout ce qui touche la partie médicale. »« Ah oui, donner à l'administration les sommes nécessaires, elle ne sera pas à les mettre dans sa poche, » déclara le docteur Blond. « Bien entendu, » acquiesça le conseiller. Andrei Efimovitch jeta un regard terne et mélancolique à son collègue blond et dit « Oh non, il faut être juste !» Nouveau silence. On servit le thé. Le chef de la garnison, qui tout le temps semblait très embarrassé, toucha le bras de Ragin par-dessus la table. « Vous nous avez tout à fait oublié, docteur !» lui dit-il. « Chacun, du reste, sait que vous menez l'existence d'un moine !» Vous ne jouez pas aux cartes et les femmes ne vous attirent pas. Notre compagnie ne vous amuse guère. » Et tout le monde parla de l'ennui qu'on éprouvait à vivre dans cette ville. Pas de théâtre, pas de musique. À la dernière soirée du club, 20 dames et 2 cavaliers seulement. La jeunesse ne veut plus danser. Tout le monde, étant les jeunes, sont au buffet ou aux tables de jeu. Andrei Efimovitch prend la parole d'une voix basse et lente, sans regarder en face aucun de ses interlocuteurs. Il dit combien c'est dommage que les habitants de la ville dépensent toute leur énergie vitale, tout leur cœur et leur esprit à manier les cartes et à cancaner. Qu'ils ne sachent et ne veuillent pas consacrer leur temps à lire ou à causer de choses intéressantes, qu'ils n'aient point le désir de goûter aux délices que procure l'intelligence humaine. L'esprit seul importe et vaut d'être cultivé, tout le reste n'est que mesquinerie et vanité. » Robotov écoutait son collègue avec attention. Brusquement, il dit « Andrei Efimovitch, quel est le 100e du mois ?» Ragin ayant répondu, Robotov et son collègue se mirent à l'interroger sur le ton d'examinateurs peu sûrs de leurs faits, lui demandant quel jour c'était, combien il y a de jours dans l'année, et s'il était vrai que dans la salle numéro 6 il y eut un prophète. À cette dernière question, Ragin rougit un peu et répliqua « Oui, c'est un malade, mais c'est un homme très intéressant. » L'interrogatoire s'arrêta là. Au moment où le docteur mettait son pardessus, le chef de la garnison lui posa la main sur l'épaule, soupira et dit « Ben, il est temps que nous songions à nous reposer, nous autres vieux. » En quittant l'hôtel de ville, Andrei Efimovitch comprit qu'il venait d'assister à la séance d'une commission réunie pour examiner son état mental. Le docteur se rappela toutes les questions saugrenues qu'on lui avait posées. « Mon Dieu » pensa-t-il. Voilà si peu de temps, cependant, qu'ils suivaient le cours de psychiatrie et passaient leurs examens. Mais d'où vient donc cette ignorance complète? Mais ils n'ont aucune idée vraiment de ce que c'est qu'une maladie mentale. Et il se sentit froissé, vexé, comme il ne l'avait jamais été. Le soir même, le directeur de la poste vint le voir. Sans lui dire bonjour, Mikhail Averdianovitch s'approcha de Ragin, lui prit les 2 mains et d'une voix émue lui dit Mon cher, prouvez-moi que vous croyez à mon affection, que vous me considérez comme votre ami. Mon cher ami, et sans laisser parler Andrei Ivanovitch, il continua de plus en plus ému. Je vous aime pour votre savoir et pour la noblesse de votre âme. Mais écoutez-moi, les obligations professionnelles empêchent les médecins de vous dire la vérité. Mais moi, je vous le dirai carrément, moi, en militaire. Vous êtes malade. Pardonnez-moi, cher Andrei Efimovitch, mais c'est la vérité pure. Et il y a longtemps que tout le monde s'en est aperçu. Tantôt, le docteur Khabotov m'a déclaré que vous avez absolument besoin pour guérir de vous distraire et de vous reposer un peu. Et il a parfaitement raison. Un de ces matins, je vais prendre un congé pour changer d'air. Prouvez-moi donc que vous êtes mon ami, véritablement. Venez avec moi. Allons, secouons-nous un peu. Mais je me porte à merveille, répliqua Ragine après un moment de déréfection. Je ne saurais vous accompagner. Permettez-moi de vous prouver mon amitié d'une autre manière. S'en aller, Dieu sait tout, et pourquoi? Sans livres, sans Dariushka, sans bière et sans eau-de-vie. Bouleverser aussi brusquement un genre de vie institué depuis 20 ans. Cette pensée lui parut d'abord un fantastique, baroque. Mais il se rappela soudain la séance de l'hôtel de ville, son interrogatoire, la sensation pénible qu'il avait éprouvée chez lui, et la perspective de quitter pour quelques semaines cette ville dont les stupides habitants le croyaient fou. Cette perspective lui sourit. Et où voulez-vous aller? Fit-il au directeur. À Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Varsovie. C'est à Varsovie que j'ai passé mes 5 plus belles années. Quelle ville merveilleuse! Venez avec moi, cher ami.